Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Swear.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Nous sommes donc avec Monsieur Fernand Lopez en direct de l'UFC Fight Island pendant le discours, l'interview d'Emmanuel Macron qui fera des annonces sur le Covid-19. Alors, mon cher Fernand, cette fin de, finalement, de Fight Island laisse un petit goût d'inachevé avec le combat de Cyril très attendu début 2020 contre Antedija qui malheureusement ne se fera pas.
Ouais, c'est un peu difficile, mais on... Bon, c'est bon, on peut relativiser, il y a plus grave. Il y a le combat qui ne s'est fait pas, effectivement, mais ça va, Cyril est en santé. Nous sommes en santé, je suis en santé, on n'a pas fait l'ouvrage pour rien, on a accompagné Nassourdine qui avait un combat, on a accompagné Alan qui avait un combat, et donc on est venu combattre aussi pour Cyril, mais... impossible puisqu'on a un problème de contrat. Enfin, l'adversaire de Cyril avait un problème contractuel, il était encore sous contrat avec le PFL. Et le contrat expire, je crois, en février. C'est en février. Et entre-temps, il n'a pas fait le... Enfin, son management n'a pas fait attention à avoir la lettre de release avant de s'engager avec l'UFC. Donc, du coup, combat annulé. Bon, voilà. Il n'y a aucun blâme à faire. Le matchmaking de l'UFC est dans la volonté de faire avancer Cyril, de lui donner une belle plateforme. Et donc, il travaille dessus d'arrache-pied pour qu'on arrive déjà en télé. Ah, il y a eu un gros travail de Mick Ménard que j'ai envie de saluer. Qui se donne à fond pour que les combat soit maintenu depuis le début. Il a l'impression que c'est une malédiction, il se déchaîne, il fait tout pour que ce combat de Cyril ait lieu, pour qu'on puisse avancer. Il le répète tout le temps, inlassablement. J'ai envie de pousser Cyril dans le top 5 et ça m'embête un peu qu'on avance. Il a checké avec tout le top 15, il n'y avait pas beaucoup de gens disponibles, ce que j'entends. Non simplement, la plupart sont maqués déjà, ils ont des combats prévus, mais même ceux qui n'ont pas de combat n'ont aucun intérêt à affronter un mec qui, pour ainsi dire, n'est pas encore un grand nom à l'UFC. Il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas qu'on puisse signer un nouveau gars juste pour Cyril. Je lui ai dit pas de problème, il se trouve que le gars, très bon palmarès, très solide, il a 10 fois plus d'espérance que Cyril Gane, donc ça devrait faire quelque chose de bien. Et puis au final, non, pas de combat. Et bon, vous avez vu, Cyril est assez détendu.
Complètement.
Il a joué au basket avec
son adversaire.
Ce soir, et voilà quoi. Il le prend, il relativise. C'est un peu chiant pour lui, mais ça se voit qu'il relativise et qu'il voit ce qui va arriver. Je pense que selon le matchmaking de l'UFC, toujours, on aura un matchmaking bientôt. On aura un match-up bientôt sur Las Vegas cette fois-ci.
Oui, parce que l'UFC va revenir à Las Vegas, donc Rust, qui est hors champ, va peut-être poser quelques questions. Mais concernant Cyril Gane, c'est vrai, aujourd'hui, on se pose la question, nous, c'est il avait démarré en trombe grâce au travail du Management Factory, du MMA Factory, qui gère sa carrière avec 3 combats...
Est-ce qu'il est bon, lui ?
Professionnel.
Avec 3 combats en moins de 6 mois. Là, ça va faire quasiment 1 an sans combattre. Est-ce qu'il n'est pas, c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais trop fort par rapport à son expérience, dans le sens où aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour l'UFC de le proposer à des top 5 parce que vont pas, un peu comme Ramzan Chimaev aujourd'hui, qui se retrouve un peu coincé parce que ceux qui sont très bien classés disent « j'ai aucun intérêt à affronter ce mec-là ».
Exactement. Maintenant, je veux encore prendre des précautions oratoires parce que c'est ce moment où mon bal placé, ça peut être. Du coup, non, je ne pense pas que c'est parce qu'il est trop fort. Le dit comme ça, ça donne un sens. Déjà que Cyril n'aime pas du tout, il ne veut pas qu'on le mette en avant, il ne veut pas qu'on parle de lui, il ne veut pas être mêlé à des histoires où il prétend qu'il est trop fort. Mais simplement, il n'est pas un bon match-up pour les autres. C'est que, et on ferait pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'étais le manager de Stipe Miocic, pourquoi j'irais affronter un jeune arrivé? Pourquoi j'irais affronter Tom Aspinall? Pourquoi j'irais affronter Cyril Gane? Pourquoi j'irais affronter... Enfin, c'est des mecs qui compliquent la vie, quoi. Mm. Et qui ne t'apportent pas grand-chose sur la table. Donc, je comprends absolument que ce soit compliqué. Et donc, même quand on a annoncé, quand il m'a appelé avant-hier pour m'annoncer qu'il y avait un problème sur le contrat d'Antelia, il m'a dit, je vais chercher à mort. Mais je suis quasiment sûr qu'on n'aura pas d'adversaire pour Cyril. Parce qu'il le sait déjà, il le sait que c'est très très difficile de trouver un adversaire à Cyril. Et j'ai eu 4 managers amis qui m'ont appelé pour me dire est-ce que Cyril a un problème. Je dis pourquoi. Il me dit parce que le matchmaking de l'UFC m'a contacté pour me demander tel poids lourd. Et donc du coup, je sais qu'il a cherché, je sais qu'il s'est battu, qu'il a cherché. Mais quand tu sais qu'il y a 2 jours de self-quarantine sur place, ensuite on voyage et 2 jours de quarantaine ici, impossible d'être prêt pour le combat dans 4 jours, c'est pas possible. Donc oui, l'UFC a été très cool, Cyril Gane est payé, et puis il rentre sur Paris, et puis il se prépare pour un combat qui va arriver bientôt sur Riyad, c'est plus voilà.
Donc, mon cher host, avant l'intervention de mon cher host, il y a un reportage qui est sorti là sur la soirée sur tout ce qui a entouré cette arrivée sur la Fight Island. On peut voir les coulisses avec votre relation. Et il y a un moment peut-être iconique de ce reportage où tu dis bah là, on va accélérer, on va arrêter d'être un petit peu trop gentil. Est-ce que malgré cette inactivité, entre guillemets, tu comptes maintenir le cap et dire 2021, là, ça y est, on s'attaque au top 5, ou au contraire, tu reportes juste tout ça?
Non, il n'y a rien qui a reporté. Je vais rester dans l'accélération. Ça, c'est le manager qui parle. C'est pas l'ami de Cyril ou le voilà. Mon job dans le management, c'est de faire que mon athlète ait de l'activité, que mon athlète gagne beaucoup plus d'argent, enfin, qu'il gagne au moins la somme d'argent qu'il mérite sur le long de sa carrière, et c'est de planifier une longue carrière. Et dans le cadre de la planification de la longue carrière, ce que je recommande et ce vers quoi je pousse Cyril, qu'on soit un peu plus agressif, sportivement parlant déjà. C'est-à-dire que Cyril Gane a, vous le savez, cette intelligence sur laquelle on est tous d'accord, il y a peu de personnes, voilà quoi, il y a peu de personnes qui aient cette vitesse, de cette lecture du jeu, de pouvoir. L'OMMA est une série de problèmes à résoudre. Dans la résolution de problèmes, moi, quand je combattais, il m'aurait pris. Si ça me prenait une heure pour résoudre 3 problèmes en MMA, à Cyril, ça prend 1 minute pour résoudre 300 problèmes en MMA. Son microprocesseur va trop vite. Trop rapide, c'est un génie du combat. Donc du coup, il lit beaucoup de choses, des informations qui arrivent, qu'il esquive, c'est pas un hasard. Tout ce que si vous constatez qu'il fait tout un combat et qu'il ne prend pas de coups, c'est pas un hasard. C'est un génie du combat, et il va très vite dessus. Si vous constatez qu'il ne se met pas dans des situations où il pourrait se faire dominer en lutte ou se faire soumettre, c'est pas un hasard. C'est un agencement de traitement d'informations très rapide. Les informations lui viennent en temps réel et en temps réel, boum, 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 il fait des bons choix. Et donc, dans ces bons choix, il est dans la précaution et on va juste accélérer un peu plus, prendre un peu plus de risques et aller chercher à être un peu plus agressif. OK, on verra bien, c'est-à-dire que c'est en fonctionnant en démocratie, je propose, parce que c'est mon rôle d'être un entraîneur, un manager, que je propose, et ensuite, derrière, il a son avis à donner, c'est lui, finalement, le chef de son entreprise, quoi, son entreprise qui est la gagne d'activité pour arriver à son objectif final. politiquement parlant, il y a ce qui renvoie. C'est de dire, moi, je ne veux pas parler des gens. Je ne veux pas appeler les gens. Ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Moi, dans mon fond, je ne peux pas dire, toi, je vais affronter un tel demain. Moi, il me faut d'ici combien. Il ne veut pas, ce n'est pas son truc. Moi non plus, je ne suis pas trop comme ça. Ce n'est pas mon truc. Ceux qui ont connu un peu ma petite carrière de MMA, j'étais assez modeste. Ouais, on verra ce qui va se passer demain. Je vais donner le meilleur de moi-même. Ce genre d'expression que la nouvelle génération n'a pas. Quoi. C'est la nouvelle génération, c'est, si tu dis ça, t'es une victime. Quoi. Maintenant, on dit, demain, je vais gagner, je vais tuer la personne. Nan, nan, nan. Et donc, du coup, moi aussi, je n'ai pas ce truc. Mais cependant, en tant que manager, j'ai envie d'aider l'UFC qui pousse. L'UFC pousse, veulent avoir des leaders comme Cyril. Ils aiment Cyril profondément. Et donc, du coup, c'est de dire que Cyril, c'est un grand compétiteur. Quand Cyril fait du basket, il veut gagner au basket. Quand il fait de la natation, il veut être premier. Quand il fait un plongeon à la piscine, il veut faire le meilleur plongeon de nous tous. Et donc, la question, elle est simple, Cyril. Est-ce que tu ne veux pas la ceinture? Non, il va te dire, je ne veux pas la ceinture. C'est pas, enfin, je ne fais pas ça pour la ceinture. Mais cependant, comme je suis un compétiteur, je vais être le numéro un. Je vais y arriver. Et donc, c'est juste de dire que vocalement, c'est bien qu'il commence, que les gens commencent à savoir que Cyril est passé de prospect à contender. Mmh. Il n'est plus prospect, il est contender. Deuxième chose, c'est que sur le terrain, on le démontre aussi. Et pour le démontrer, bah, il faut prendre des mecs forts. Des mecs, voilà quoi. Maintenant, ça ne se fabrique pas les mecs forts. On a beau vouloir, mais s'il n'y a pas, on prend ce qu'il y a. Et c'est là où je le rejoins. Il ne veut pas forcer les choses. Il ne veut pas donner l'impression qu'il pense qu'il n'est pas à sa place. Il dit, je suis à ma place, je me sens bien. Où on me met en ce moment, je sens que l'UFC me respecte. Moi, je les respecte. Je suis à ma bonne place. Et je le rejoins et je respecte. J'ai beau être son manager, mais je dois respecter le point de vue de mon client, où il veut être en ce moment.
Et on sait aussi, on a discuté tout à l'heure avec Cyril, qui nous disait que bah, de toute façon, là, les 8 mois derniers, on sait ce qui s'est passé, on sait le nombre d'adversaires qui a changé, le nombre de fois où le combat a été repoussé. Et Cyril nous disait aussi que bah, toi, en tant que manager et coach, mais en tant que manager dans ce cas-là, et Cyril, vous avez toujours dit oui quand l'UFC proposait de nouveaux adversaires, de nouvelles dates, quels qu'ils soient. Vous n'avez jamais refusé de combat, vous n'avez jamais refusé qui que ce soit.
Soit à l'UFC, on prend tout le monde. Moi, c'est la philosophie du Management Factory. À l'UFC, on prend tout le monde. Il y a des cas exceptionnels. Je ne dis pas non. Peut-être un jour, je dirai non. Peut-être un jour, il m'arrivera de dire non à un combat. Je ne sais pas encore. Peut-être parce qu'il y aura une maladie, peut-être parce qu'il y aura une blessure. Il m'est arrivé de dire non une fois pour le combat de Taylor Lapillus parce que je pense qu'il avait l'épaule qui était sortie, un truc comme ça et tout. Et donc, c'était chaud. On sortait du Mexique et tout. Il avait une épaule sortie. On lui a proposé. Voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, non. Vraiment, Alan Boudou vient de combattre. Il a pris un super champ de notice. Aucune excuse. On savait où on allait. On avait fait les calculs. Les calculs, c'était OK. On sait que tu as plus de chances de perdre que de gagner. Cependant, tu étais prévu pour le contender. Au lieu de passer par le contender, on a un raccourci qu'on prend. On rentre là-dedans. Et ensuite, quand tu es dedans, même si tu perds aujourd'hui, déjà, c'est pas sûr que tu perds parce que on avait un truc, une petite stratégie qui aurait pu marcher. Vous avez des personnes qui commentent des fois sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de ne même plus aller commenter dessus. C'est dur. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il est venu, il n'avait même pas de stratégie. En 10 secondes, il a tourné le dos 3 fois à l'adversaire. Mais les gens n'ont pas compris en fait que c'était la stratégie. C'est-à-dire que si on entend dans le coin, c'était ça, effectivement, la stratégie. C'est-à-dire que Tom Aspinall est tellement bon sur le combat, tellement solide, tellement complet que si on ne lui ajoute pas des incertitudes dans la manière dont il boxe, si on ne lui met pas de l'inconnu, quelque chose qui fait qu'il n'ose pas avancer, on est dans la difficulté parce que très rapidement, il sanctionne. One two chez lui, ça va très vite. Gauche-droite, il le balance et en général, ça tombe. S'il n'y a pas gauche-droite, ça finit par un low kick. Quand c'est gauche et low kick, il est super solide. Black belt jiu-jitsu brésilien, donc c'est super solide. Quand tu envoies Alan avec, si tu n'as pas un vrai game plan, tu es mort. Et le game plan, c'était celui-là justement de faire que Alan, qui est extrêmement dangereux sur les coups de coude qu'on a surnommé Ziak, d'où on dit le Ziak show, Ziak, voilà. Et donc du coup, Alan avait prévu de lui sortir, de le surprendre sur les coups de coude et peut-être le blesser. Moi, j'ai eu le départ quand il prenait son vol. avant-hier soir à Spinal, il est venu en bas, son père et lui m'ont dit, vraiment, vous n'êtes pas passé loin de choquer le monde. Parce qu'il y a un coup de poudre qui est passé en dessous, qui était remontant, qui est passé sur la joue de mon fils. Vous aurez pu faire quelque chose de surprenant. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris que c'était organisé et qu'en gros, pour pouvoir garder Aspinall loin, il se mettait en mode faux crochet et puis faisait juste ça et Aspinall reculait. Du coup, Aspinall n'a pas mis un coup. Il n'a pas pu placer un coup correct sur Alan. Alan a rentré deux jabs. Alan a mis un low kick. Alan l'a touché sur quelques crochets quand ils sont arrivés au clinch. Mais Aspinall, pas parce qu'il avait peur d'Alan, mais parce qu'il s'est dit, c'est dangereux, quoi. Le mec, il bouge dans tous les sens, il va me faire mal au hasard, je préfère faire attention. Et puis, il a changé de niveau, il l'a amené au sol. Très intelligent, Thomas Aspinall. Très intelligent, son choix. Parce qu'il est capable de bagarrer avec Alan debout. Mmh. Attention, hein. il peut mettre mal à Alan debout. Mais il a choisi où c'est safe. Et c'est ça, l'intelligence du combat. Bon, bref, je reviens sur le sujet. Parce que je suis très fort en digression, moi, attention.
Eh oui.
faut masquer bien ce que je garde au fil des idées. Donc, je reviens sur le sujet. Le sujet, c'était pourquoi dire toujours oui. C'est que le combat d'Alan Boudou termine. Le lendemain, j'ai le matchmaker qui m'appelle, Mick Ménard. Il me dit, bon, j'ai un autre combat pour ton gars. On a apprécié... son engagement, on apprécie qu'il nous sauve le combat et tout, et son engagement et tout. Et donc, j'ai un combat pour lui le 7 novembre contre Deontay Miles à Las Vegas. Parce que il faut savoir, grâce...
Alan a son visa.
Voilà, grâce au Management Factory, on a un avocat qui s'occupe de nos visas et qui nous dégote des visas. Et donc, du coup, Alan a un visa de 3 ans, puis un visa pour les États-Unis. Ça veut dire que... L'UFC donne des visas d'1 an à chaque fois. Là, Cyril a son visa d'un an qu'on va devoir renouveler. Mais Alan, d'un coup, il a un visa de 3 ans pour les États-Unis. Et donc, nous, on offre ça à l'UFC. Hein, et l'UFC se dit, putain, j'ai jackpot, quoi. On a ces mecs qui nous offrent un visa déjà de 3 ans. Donc, on peut l'amener partout. Ça peut être ici à Abu Dhabi, ça peut être à Las Vegas. Et donc, il me propose ce combat. Le combat en question n'est pas un bon match-up techniquement parlant pour
Alan,
puisqu'on connaît bien... dans des mains qui a affronté Cyril Gane.
Oui.
Il n'est pas mal. C'est l'un des mecs qui a le meilleur footwork dans le roster. C'est l'un des meilleurs cardio qu'il y a dans le roster. Alan peut le battre, mais il faut une vraie pépa pour Alan. Là, Alan est reparti. Il y a son préparateur physique, Hugo, qui a déjà pris en main. On a déjà tout fait. On a fait notre camp d'entraînement pour Alan qui a commencé.
Donc là, Alan reviendra le 7 novembre, normalement.
Il devrait revenir. Je vais y arriver. Il devrait revenir. Donc, du coup, Alan, moi, dans la même réponse que je donne toujours à Mick Ménard, let's go. C'est-à-dire que Mick dit la définition de MMA Factory, c'est let's go. C'est le matchmaker de l'UFC qui dit ça. Il dit, j'adore dealer avec toi parce que tu chipotes quand tu es hors de l'UFC. Quand tu es à l'UFC... tu dois venir avec la mentalité « je veux battre le numéro 1 ». Au moment où Alan met ses pieds à l'UFC, ce que je lui donne comme indication, c'est « tu vises de battre Stipe Miocic, mais regarde tout ce qu'il y a comme étape. Tu n'es même pas encore, au niveau des épaules de Cyril Gane, qui n'est pas aux épaules de Francis Ngannou, qui n'est pas aux épaules... enfin, il y a toutes ces étapes à passer, mais déjà, c'est bien. Tu as un rêve, tu as un goal. Je veux la ceinture. Et à partir de là, tu es libre. Donc, quand moi, j'ai appelé Alan, que j'ai proposé d'éhonter mal à Alan, il m'a dit, let's go, moi, je te suis. Je te fais confiance 100%. On y va. Sauf que c'est une bonne chose pour nous, c'est que... Et pourtant, c'est pas moi qui l'ai demandé. C'est-à-dire que quand on termine un combat à l'UFC, quel que soit ce qu'on a eu comme blessure, on a une indisponibilité médicale de 2 semaines, d'office, pour la fatigue psychologique et tout ce qu'on veut, d'office, on est indisponible 2 semaines. Et donc, quand on arrive, Alan, il a un petit blé ici, et donc le staff médical avec lequel, bah, à force, on est amis, je dis, bon, les gars, donnez-lui 2 semaines, il faut qu'il recombatte là, donnez-lui, allez, il n'y a rien, c'est rien, ça et tout. Et puis, Taylor dit non. Non, il ne mérite pas 2 semaines, c'est 4 semaines. Et donc, il met 4 semaines. Et donc, les 4 semaines, finalement, c'est ce qui va faire qu'on repousse le combat de Alan et qui va combattre un peu plus tard parce que les 4 semaines tombent le 10 novembre, alors que le combat est prévu le 7 novembre. Et donc, du coup, combat déplacé, ou en tout cas, peut-être rematching, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, Alan est prévu pour Las Vegas pour le mois de décembre. Donc, voilà. Nous, en tout cas, sur le cas de... Si je reviens sur le cas de Cyril, même d'ailleurs de mémoire, quand j'étais le manager de Francis, on n'a jamais refusé un combat. Aucun combat. C'était un peu plus agressif parce que Francis aime bien demander, mais on n'a jamais refusé un combat. Cyril, jamais de la vie. C'est-à-dire que moi, je me suis positionné depuis deux combats au niveau de Cyril à dire au matchmaking, let's go, allons sur le top 10. Est-ce que tu es sûr que... Je ne suis pas sûr, mais allons sur le top 10. Je pense qu'il est très bon. Je pense qu'il va gagner la majorité des combats, certainement 90% des combats. Cependant, je ne peux pas vous garantir qu'il va gagner tous ces combats. Mais je dis juste que le gosse, vous êtes en train de brider son moteur et il va ternir parce que vous le bridez, laissez son moteur aller, mettez-le à haut niveau. Cyril, c'est le genre de mec qui est toujours légèrement au-dessus de son adversaire. Légèrement. Vous n'allez pas le voir. À part au TKO où il était énervé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, il brutalisait le mec de manière outrancière et tout. Mais en général, Cyril il est là, son adversaire vient là et puis il va le battre de ça. Et ensuite, vous lui dites, oh bon, ok, je lui mets ça, ensuite il va le battre de ça. Toujours d'un chouïa. Et donc, du coup, si vous continuez à lui donner des adversaires moyens, bah, ne vous inquiétez pas, il va rester au niveau de chouïa. Donc, du coup, on a ce truc-là où... Cyril est toujours un peu au-dessus. Et donc, allons là. Allons-y. Et puis, mettons-le là-dedans. Et on va tester son moteur. Moi, il m'arrive de le faire au club, de dire, Cyril, j'en ai marre. Je te vois pas transpirer. Je t'ai jamais vu essouffler. Tu peux lui mettre trois mecs. On va à l'INSEP, au milieu de l'INSEP. Il va prendre trois mecs d'affilée qui sont à l'équipe olympique de boxe. Et il va arriver et il continue à avoir un dialogue sans signe de grave essoufflement. C'est énervant. Tu te dis, j'ai envie de voir comment il est en dette d'oxygène, il n'en peut plus, il va mourir. J'ai envie de voir où est sa limite. Bon, j'ai envie de voir. Du coup, je me dis, venons, on y va. Venons, on y va. Et puis, le pire, c'est que quand tu es dans les poids lourds, il n'y a même pas de logique. Ouais. Qui vous dit que Thomas Pinal, il n'est pas plus dangereux que Stipe Miocic sur un combat? Il y a des combats monstrueux où on ne comprend rien. Qui vous dit que... Regardez le top 10 qu'il y a eu Tiboura contre... comment il s'appelle la semaine dernière, Tiboura, il a combattu contre...
Contre Ben Roswell.
Ben Roswell. C'est bon. C'est-à-dire que Alan s'en serait mieux sorti dans ce combat que sur le combat avec un nouveau comme Thomas Pinal qui a un combat à l'UFC. Donc du coup... En voulant esquiver, tu te retrouves dans des pièges incroyables. Laisse-toi aller, avance. T'es déjà dans le lot, t'es déjà dans le bain. Voilà la définition qu'on a. C'est-à-dire que l'arrangement de carrière, ça se passe avant l'UFC. Quand on est dans l'UFC, on n'arrange pas. Et même encore avant l'UFC, c'est simple. Tu prends des chèvres, tu ne marches pas. On voit ce que tu as pris et on sait que dans le truc, tu n'es pas terrible. Alors qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui vont se retrouver avec 10-0. Mais qui n'auront pas l'occasion, qui ne pourront pas rentrer dans l'éligibilité pour pouvoir rentrer à l'UFC comme un mec comme Damien Lapillus. Et pourtant, Damien Lapillus, il a perdu beaucoup de combats. Mais quand tu vois ce qu'il a pris comme client, la moitié de ses adversaires sont à l'UFC. La moitié de ses adversaires sont à l'UFC ou sont sortis de l'UFC. Il a pris des clients venus de... Enfin, que des clients. Il ne calcule pas. Et ça paye finalement parce que le Fightmatics aujourd'hui, Damien Lapillus est mieux classé qu'un mec qui l'a mis KO. Mm. Fares Ziam, le jeune français très talentueux qui va combattre ce week-end-là, il est classé derrière Damien Lapillus parce qu'il a pris des clients, des gros clients. Et le matchmaking regarde quand même ça et s'est dit, bon, c'est intéressant, ce mec, c'est un guerrier, il a une certaine expérience et tout. Et s'il est propre et tout, peut-être le dernier adversaire de Taylor, de Damien, bah, c'est un vétéran de l'UFC, un jeune polonais qui sort de l'UFC. Il a désinfecté en deux rounds. Quoi. Donc, je pense qu'il faut avoir un discours cohérent avec nos athlètes. Si jamais ils sont prêts à faire une carrière de loisirs d'amateurs. On les accompagne dessus, on soigne leur carrière. Ils sortent, ils ont un beau CV, 10-0, jamais battu. Ils ont été champions d'Europe dans quelque chose. Ils ont leur carte de visite, ils peuvent ouvrir une salle de sport. Et puis, c'est bon. Mais si on a des athlètes qui veulent aller à l'élite, il faut arrêter de vouloir soigner les palmarès. Il faut aller au charbon, il faut y aller.
Mais du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que, parce que comme tu viens de le dire, Cyril, il y va proportionnellement à l'opposition à laquelle il fait face, mais du coup, et surtout dans la situation dans laquelle on est là, où les combats sont annulés, etc., et qui auraient été des combats contre des fighters qui ne sont pas encore du top 15, donc Ante Delija, Chamil, je crois qu'il était dans le top 15, mais est-ce que du coup, toi, tu n'as pas la tentation de te dire, bah maintenant, pour entre guillemets, rattraper directement le wagon sur lequel on était parti, de le mettre directement contre un nom, s'il accepte, et si l'UFC met les formes derrière, du top 10, parce que tu serais probablement confiant, j'imagine, quoi.
Absolument, c'est ce qui est prévu. C'est-à-dire que, très clairement, c'est ce qui est prévu. Je vous titillais pour aller savoir si je vais vous donner un blast. Je ne vais pas donner de blast. Je ne vais pas donner de blast parce que légalement, je n'ai pas le droit de le faire. Je fais ce qui est légal. Je suis bavard, mais dans la légalité. Je ne vais pas donner de blast, mais depuis le début, c'est pour ça que je n'en veux pas. Cyril ne peut pas être énervé au vocal envers l'UFC. Je ne peux pas, je serais trop malhonnête de faire ça. Je vous dis, depuis le premier jour, Nick m'a posé une question. How do you want to play? Comment tu veux jouer avec Cyril? On accélère ou on temporise, on le construit? Je lui ai dit, il est déjà construit. Bombarde. C'est exactement ça. Bombarde. Il m'a dit, bombarder comment? Moyen ou tu veux dire top 20? Non, j'ai dit bombard dès qu'il y a un mec de free, dès le premier combat. Bombard. Ne te prends pas la tête. Bombard. Pas parce qu'on est prétentieux, mais parce qu'on a fait la réflexion, Cyril et moi. Quelle est la différence entre Ante Delija et Dos Santos? Il n'y a pas de différence, en fait. Il y a juste le chiffre qui dit que tu es top 10, mais en vrai, Ante Delija est très, très dangereux. Beaucoup plus dangereux qu'un mec comme ça. Voilà. Donc, Tiboura, c'est un mec qui est expérimenté, technique debout, c'est high kick monte, bon au sol, black belt juste au brésilien, mais on voit bien qu'il est plat. C'est-à-dire que ce n'est pas le mec qui va vous faire une grosse accélération. C'est-à-dire que tranquillement, on peut aller sur une victoire tranquillement. Alors qu'il y a des jeunes qui ont faim, qui peuvent être extrêmement brutales d'un coup. Comment il s'appelle, Hardy? C'est des mecs qui peuvent exploser d'un coup. Ils sont très explosifs. Ils peuvent te mettre en danger. Donc, du coup, en réflexion, pourquoi être là à chipoter? Vous avez un adversaire qui est dispo, bombardez, on y va. Parce que tôt ou tard, ça fait mal chez les poids lourds. Quel que soit qui on prend, c'est lourd chez les poids lourds. Donc, voilà, c'est ça notre philosophie, finalement.
Et tu avais commencé la Fight Thailand avec la victoire de Nassourdine Imavov, pour lequel tu avais d'énormes attentes. On l'a regardé en direct, on a eu un petit peu chaud par moment. Qu'est-ce que tu en tires de ce combat-là? Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Ou au contraire, est-ce que tu t'es dit, bon, bah, c'est vrai que là, il affrontait aussi quelqu'un qui était extrêmement valeureux. Et est-ce que pour la suite, tu te dis, on va aller dans cette direction-là ou dans une autre, au contraire?
Non, tout s'est passé comme prévu. En tout cas, pour moi qui est le coach. C'est très délicat la position de coach. Quand tu es coach, en période d'affûtage, tu dois encourager ton gars et lui dire que tu vas marcher sur ton adversaire. Il faut que tu le gardes dans le positif. Même si tu sais qu'il y a des choses qui vont être difficiles. Tu les prépares. Tu vas dire, par exemple, si on va au deuxième round, si on va au troisième round, voilà ce que tu vas faire. Donc moi, je prépare le truc. J'ai eu une anecdote, tu vois. Je vais dire à Ahmed, et si on va quand on va à la pause, Ahmed, ton rôle, c'est, tu vas dire, je parle pendant 10 secondes, ensuite je te laisse la parole. Ensuite, il y a tel qui va prendre la parole. Voilà ce que j'ai dit. Et puis, Nassau va dire, mais vous voulez dire quoi, on va aller au deuxième round, c'est ça? C'est le côté amusant, c'est un blagueur, hein, Nassau, c'est pas qu'il est, il n'est pas du tout prétentieux. Il est très humble et tout. Mais voilà, il titille quand même en disant, wesh. Donc, on va au second round là et tout. Donc, vous n'envisagez pas que je le termine au premier round. Voilà ce qui est bien, la mentalité d'un athlète. C'est bien ça. Mais le coach doit être prudent. Il va voir tous les aspects du truc. Donc, je vais prévoir au cas où l'adversaire est dur et qu'il est dur en lutte. La stratégie sur Nassourdine, c'est OK. tu vas essayer de l'amener au sol, mais ne mets pas l'énergie sur t'amener au sol. Boum, tu envoies. Je soupçonne qu'il soit puissant et qu'il soit fort. C'est un ancien lutteur, c'est un très bon lutteur, mais qui est tombé amoureux de la patate et qui a un bras arrière qui serait solide. Donc, quand tu vas shooter, si tu sens que c'est dur, ne force pas trop, remonte en gréco-romaine, tu joues la montre, tu cales un peu dessus, tu récupères un peu. Ça, c'est de la prévention au cas où on ne sait pas l'inconnu. Parce qu'il y a le visuel que j'ai, il y a l'auditif que j'ai, mais le kinesthésique, ce que les adversaires de Williams ont senti, moi, je ne l'ai jamais senti ça. Et donc, j'ai besoin d'aller sur quelque chose d'hypothético-déductif, de faire des hypothèses, de faire des déductions et de conclure sur quelque chose en me disant, voilà ce que je vais te préparer au cas où tu bloques, voilà ce que tu vas faire. Bah, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, moi, perso, je suis archi satisfait parce que ça s'est vu, en tout cas, de l'échange que j'ai avec le matchmaking de l'UFC. Ils sont satisfaits parce que des fois, quand un élève à toi va et qu'il pète un gros KO et qu'il sort, tu nous as amené un combattant, mais on ne sait pas qui c'est. OK, il a eu un KO, mais le matchmaking me dit, bon, on va voir, je ne sais pas ce qu'il est, on va attendre de voir. Mais Cyril, quand on sait qui c'est, il a mis KO, il a soumis, il a lutté, il a mis les timings. Nassourdine, pareil, on l'a vu dans le feu de l'action. Enfin, attention, même si ce n'est pas un bras arrière qui lui a fait faire l'ascenseur, c'est un coup de tête qui a sonné les deux. Cependant, après le coup de tête, on a vu qu'il est capable de sortir des turbulences. Quoi. Il était vraiment comme les anglo-saxons. Il était dans le trouble. Il était dans beaucoup de trouble. Il a fait ascenseur moins un, boum, tout de suite, double leg, boum, tout de suite, il a remonté la pente et il a... Voilà. C'est ce que... Donc, l'UFC s'est dit, OK, we have a badass. On a un nouveau joker dans la catégorie de 84 kilos. On a quelqu'un qui est capable d'échanger très techniquement, ce qu'il n'a pas fait au premier round. Deuxième round, il s'est reconcentré. Il a sorti une boxe anglaise archi propre, archi chirurgicale et tout, et avec des timings, des machins. Et là, on voit l'intelligence de combat, le coup de coude et tout, comment ça sort, le timing du coup de coude et tout. Voilà, on voit quelque chose d'étendu, complet. Là, aujourd'hui, en un combat, le matchmaking de l'UFC, c'est on a un client sur lequel on peut compter pour remplir les fight cards. Alors que dans le cas de Alan Bodo, on ne sait pas encore. On ne sait pas ce qui, on ne sait pas s'il a... Voilà, c'est juste une grosse chèvre qu'on a amenée et il perd le combat. On ne sait pas si c'est un bon, mais il se fait éteindre par un autre très bon. On ne sait pas encore. Donc, on va lui laisser une chance de se refaire. On va lui donner l'opportunité de vouloir nous montrer ce qu'il a. Parce que le MMA Factory, c'est crédible quand même. Le management factory, on est crédible quand on amène des clients. Enfin, c'est des clients crédibles, tu vois. On a pas mal de bonus déjà à l'UFC. Véronica Macedo, elle avait pas mal de bonus avec le management factory. Yon Kouté là-bas, pas mal de bonus avec le MMA. On sait qu'on est crédible quand même.
Et avant d'évoquer les prochains gros projets, notre cher Rust a une question.
C'était simplement par rapport à... Là, on sait que Nassourdine, il a fait face à la difficulté. Clairement, je suis d'accord, enfin, la boxe anglaise, c'était juste somptueux. Et en plus de ça, on sait maintenant de quel bois il se chauffe, etc. Par rapport à Cyril, si on peut faire un petit parallèle, il est tellement talentueux. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure au basket. Bon, de toute façon, il aurait pu faire du foot en pro et du basket, mais c'est du délire. Quand tu as quelqu'un d'aussi talentueux que Cyril... qui a surclassé grosso modo tous ses adversaires, même après genre 2 ans de boxe thaï, après 1 an de MMA, il a l'UFC, etc. C'est du délire. Mais comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu peux savoir si dans la guerre, si quand vraiment ça devient très 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 chaud, quand il va tomber contre les top 5, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce que ça t'angoisse ou qu'est-ce que tu te dis?
Oui, ça met une petite angoisse, mais encore une fois de plus, je suis tranquille parce que... Cyril Gann, c'est un éducateur sportif. C'est qu'il réussit à m'éduquer, même moi qui est censé être le coach sur certaines choses. C'est que la question, c'est coach, et puis quoi? On va où? On est là. Qu'est-ce qui va se passer? On est là, coach. On est là. De toute façon, on est là à l'UFC. On est là pour longtemps. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qui est combat, pas combat? Qui est annulation? Que je tombe sur un mec qui me broie au sol? Et après, quoi? Oh, je ne vais pas me relever, je ne vais pas apprendre. On est là. Donc, ce que je veux dire, c'est que le seul indicateur que moi, en tant que coach, je peux avoir, c'est les mises en situation réelles à la salle. Vous avez beaucoup entendu parler de Slim Trabeski. L'UFC a entendu parler de Slim. Sur le combat sur la plupart des combats de Francis et de Cyril, vous avez les commentateurs qui parlent de ce Slim Trabeski qui n'a qu'un seul combat.
Et qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire
et qu'on voit... Cyril sur la fight. Voilà. Parce que Slim, c'est notre testeur de la lutte. Si tu survis à Slim, c'est bon. Tu peux je ne suis pas sûr qu'il y ait le niveau de lutte proposé par Slim dans l'UFC. Attention à ce que je dis, parce que ça se prend souvent mal. Écoutez bien ce que je dis. Hormis Khabib, enlevons Khabib. Parce que là, je l'ai oublié, je parlais des poids lourds. Parce que Khabib, c'est un autre niveau. C'est
donc, chez les lourds.
Oui. Voilà, chez les lourds. Chez les lourds, le niveau de lutte que Slim propose pour l'OMMA, parce que c'est ça la question. C'est que quand les grands lutteurs deviennent très bons lutteurs, quand les grands lutteurs deviennent bons en MMA, des gars comme Ousmane Camaro, des gars comme DC, bah, ils tombent tellement amoureux de la boxe qu'ils boxent beaucoup et ils ne luttent plus beaucoup. Il n'y a que des mecs comme Khabib qui ne sortent, qui ne déroge pas et qui sait que c'est son joker et il va aller l'échange debout, mais il t'amène quand même dans ce domaine, il te pourrit la vie dans son domaine. Et je peux vous garantir que Slim, c'est un bordel. C'est vraiment très compliqué dans la vie. Et donc, j'essaie de mettre Cyril Gane dans des situations où il est vraiment dans la profondeur. Je vous parle de Cyril, de Slim. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Messi Katanga?
Eh oui, judoka qui vient d'arriver au MMA Factory.
Ok. Messi Katanga, par exemple, c'est un autre sparring de Cyril. Judoka qui a été beaucoup dans l'ombre de Teddy Riner, puis voilà, voilà, et qui boxe d'une manière décente. C'est un bordel en judo, les gars. Quelqu'un met la main sur vous, vous allez vivre l'enfer. C'est-à-dire qu'il est lourd, il est plein. C'est-à-dire que le mec, il fait un cutting pour arriver à 120, un gros cutting de 10 kilos. Donc, c'est un bordel. Et donc, si vous voulez, ces gens de sparring sont ceux qui m'aident à tester ce que sera Cyril le jour où il va rencontrer des gros lutteurs comme Curtis. Mais ça encore, ce n'est que de l'hypothèse. Je ne peux attendre comme vous, j'attends. Malheureusement, je n'aurai pas les pop-corn comme vous. Moi, je serai dans le feu de l'action ce jour-là, Inch'Allah, comme on dit. Mais je ne peux rien faire d'autre que d'attendre et de voir ce qui va se passer. Parce que la réaction qu'il a avec Slim n'est peut-être la même réaction qu'il y aura avec Curtis. Même si, comme je vous dis encore, celui qui a déjà assisté aux entraînements Slim contre Cyril, c'est la guerre interplanétaire. C'est-à-dire que si Slim n'est pas là pour jouer un maudit jour, il envoie des fers à repasser, des bouches d'égout venues de tout le part avant d'arriver sur la gauche, sur la lutte. Donc, c'est un vrai bordel. Voilà. À partir de ce moment-là, bon, voilà. C'est tout ce que j'ai pour tester. Je ne sais pas si j'ai répondu à...
Mais en revanche,
ce qui est assez intéressant, c'est que là, dans ce que tu viens de dire, on a parlé de la guerre, on a parlé de... Mais tu as évoqué tout de suite la lutte et le sol. Ça veut dire que tu as 100% confiance que de toute façon, il sera meilleur que tout le monde debout?
Oui, c'est pas... Alors, c'est pas prétentieux. C'est juste de dire que on est d'accord que de la même manière que Adesanya gouverne la catégorie des 84 kilos, il y aura des phases où il va se faire toucher. Vous avez vu la tête d'Adesanya quand il est sorti du combat contre
Gastelum,
il était touché de partout. Mais il n'y a aucun doute, même un aveugle voit que la science de combat debout, striking de Adesanya, c'est un autre niveau. On est d'accord qu'on ne se mouille pas beaucoup si on dit que Cyril, en pied-point de manière complète, est l'un des plus dangereux, c'est les poids lourds. Enfin, il faudrait, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas objectif, toi, tu dis quoi, toi?
Moi, je dis rien, moi.
Moi, je suis d'accord.
Techniquement,
c'est
presque
du jamais vu en polo. Voilà, donc, tant dans la complémentarité, dans le champ lexical de la boxe, c'est, voilà, quoi, on a quelque chose d'assez propre. On s'est dit, il va prendre des coups, il va prendre des pêches, mais de manière générale, on sait que s'il y a quelqu'un qui distribue autant de coups, avec tant de variété de coups, enfin, piétiner le visage de Deontay Wilder quand tu viens de lui mettre un coup de genou, sauter, quand tu vas aller chez les poids lourds, c'est quand même extraordinaire. Des barfesses, des coups de retour. Enfin, on est dans un champ lexical incroyable, quoi. Enfin, voilà. Donc, on peut dire sans risque de se tromper qu'en termes de connaissances pures, on est sur quelqu'un qui domine, qui va en tout cas dominer sa catégorie en pied-point et que où on peut commencer à douter, à avoir des réflexions, c'est sur son sol, c'est sur sa lutte. J'essaie juste d'aller de manière objective. Après, Vous me direz, ouais, peut-être je ne le suis pas, et je l'entendrai si vous me dites ça, que je ne suis pas objectif, chef.
Si, non, on n'a aucun problème à ce sujet-là, sur Cyril. Pour la suite, tu as fait un petit peu de name-dropping avec Ahmed Salamov et donc Slim, qui sont deux grands espoirs du MMA Factory. Comment ça se passe, toi, et puis aujourd'hui, par exemple, Messi Katanga, qui vient de vous rejoindre depuis assez peu de temps, comment est-ce que tu fais pour dire, un Cyril Gann, tu vas le lancer très rapidement dans le bain et sa carrière explose en un an, grosso modo, alors que Slim, ça fait un petit moment, Ahmed aussi, on connaît toutes leurs qualités, mais pour l'instant, ils restent dans l'ombre, on sait juste que ce sont des tueurs, mais on attend de les voir chez les pros. Comment ça se passe, toi, pour que tu prennes ta décision de « Ok, maintenant, on appuie sur l'accélérateur ».
Il faut de l'opportunité et des situations. Il y a des problèmes qui dépassent juste les problématiques sportives. Il y a des personnalités qui ont des problèmes de famille. Les gens ne savent pas ce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas accélérer la carrière de Francis Ngannou parce qu'on a des problèmes que vous ne connaissez pas. Vous êtes né à Paname, vous ne connaissez pas les problèmes des papiers. Et moi, j'allais combattre avec Francis en Suisse. Francis, je lui réservais le blablacar pour qu'il passe parce qu'il ne pouvait pas prendre l'avion.
D'accord.
Parce qu'il passait par des pour aller combattre en Suisse. Moi, j'ai amené Cyril à aller combattre au Bahreïn. J'ai eu la chance de combattre au Bahreïn parce que Mohamed Chahed, qui est le président du Brev maintenant, était mon ami. Est toujours mon ami, c'est un grand ami. On s'est appelé hier encore Mohamed Chahed. Et Mohamed Chahed, c'est lui qui a appelé. C'est-à-dire que les services secrets sont venus nous chercher à la vue dans l'avion pour aller faire le dernier combat de Francis avant l'UFC. Mais ça, vous ne le savez pas.
D'accord.
Donc, il y a des choses un peu. Voilà, il y a des choses compliquées que vous ne pouvez pas comprendre encore. Mais sinon, la carrière de Francis, j'aurais pu la faire. J'aurais pu pousser pour qu'elle décolle un peu plus tôt. Mais il y avait des choses administratives à faire avant. Et donc, quand j'avais une organisation comme le Brev,
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ça s'appelait HKH à l'époque. Mm-hmm. Mohamed Chahed, qui est le président de Brev maintenant, était le directeur. Du coup, comme il était ami, je pouvais lui dire, écoute, j'ai un souci. Administrativement, ça va être difficile de se rendre là. Et lui, il dit, ne t'inquiète pas, le Brev, c'est chez nous. Le chèque et tout, je m'occupe de ça. Et vous sortez de l'aéroport et vous allez voir, on va s'occuper. Et donc, on arrive à l'aéroport, on est pris, on passe par les couloirs, on arrive, on combat, on repasse par les couloirs, on rentre chez nous. Donc, si vous voulez, en fonction de tout ça, il y a beaucoup, je vous dis, c'est multifactoriel. Hein. Je ne vous dis pas que c'est le cas de...
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est multifactoriel. Et donc, voilà. Mais donc, du coup, chacun a son étoile, chacun a son moment, chacun a son... Voilà, quoi. Mais en tout cas... Ahmed, par exemple, il aurait pu être suffisant.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il est venu accompagner Nassour, ce n'était pas au hasard. Mm-hmm. Ça aurait pu être le record du mec qui a 1-0 et qui est là parce qu'on sait le potentiel qu'il a. C'est un bordel. Et la chance qu'on a au Management Factory, c'est que l'UFC nous fait confiance. Mm-hmm. Ils savent que quand on envoie un mec, c'est un client. Mm-hmm. En général, c'est un client. Et donc, voilà un peu...
Ça va arriver
très rapidement. Ce sont des personnes avec un gros potentiel et ils sont sur les starting blocks. On travaille dessus d'arrache-pied.
Et donc, là, la transition est parfaite avec la Lopez bombe qui a été lâchée il y a quelques jours dans une interview ou dans un podcast chez nos confrères. On est obligé d'en parler, oui, parce qu'il y a eu énormément de réactions, on a reçu énormément de messages. J'imagine que tu en as reçu 4 fois plus que nous, à propos de ce que tu as dit sur Francis Ngannou. On s'est permis de traduire donc l'interview que tu as accordée à The Bash MMA, un podcast de Peter Carroll qui est aussi contributeur pour BBC. Et il y avait ces fameux mots de « he's not a good guy », donc « ce n'est pas une bonne personne » en français. Par rapport à ça, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes, parce que tu assumes t'assumes tout, mais est-ce que par rapport à ça et toutes les réactions qu'il y a eu, est-ce que tu comprends, toi? Parce que c'est surtout ça, moi, qui m'a frappé. C'est plus de ce, par rapport à ce que t'as dit dans toute l'interview qui dure 1h14, quelque chose comme ça. Il y a 21 minutes sur Francis. Et sur les 21 minutes, moi, il n'y a aucun moment où j'ai été choqué par ce que tu disais. Mais c'est plus les réactions qu'il y a eu ensuite qui, moi, m'ont surpris.
Il faut s'attendre à ça. C'est-à-dire que il faut avoir beaucoup de recul. Moi, j'ai beaucoup de détente maintenant avec ce qui se passe. Je suis assez détendu. mon dos est blindé maintenant. J'ai plus tellement de flèches que ça va. Donc, concrètement, les mêmes personnes qui disent que déjà dans un premier temps, la traduction elle est brutale. Je comprends les gens pour ça. De la même manière que le premier ministre et tout, vous lui envoyez une vidéo de MMA et vous lui montrez un truc, il y a le grand impan, le mec il est là, il prend des coups de manière acharnée au sol, des coups qui choquent même Dan Hardin qui est le commentaire, du sang qui vole et tout, il vous dit bah, ce sport je ne le veux pas, c'est trop brutal, laissez tomber. Parce qu'on l'a choqué, parce qu'on n'a pas meublé, parce qu'on ne lui a pas montré les gosses qui s'entraînent. Bah, le contexte est important. Bash m'appelle pour faire une interview sur Fight Alliance. Ils me disent on va parler de Cyril Gane, on va parler d'Alain Bodo, on va parler de Nassourdin, on va parler du MMA en France, on va parler de MMA GP, on va parler de Bellator. Voilà l'introduction de Bash. J'accepte l'interview. 1h30 d'interview où je parle de tout ça. Boum, je me réveille, je vois un concentré de 20 minutes et il y a boum, les commentaires qui sont en train de s'envoler. Il a dit, Cyril Gane n'est pas un bon gars. François n'est pas un bon gars. Sorti ça.
Ça sort de son contexte.
Ouais, alors là, c'est bon. On a notre headline. Ouais. Cyril Gane n'est pas un bon gars.
Ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire que vous voyez, là, je viens de dire quelque chose, on coupe, on sort, boum. Cyril est chez lui, dit oh là là, coach, là tu vas fort, j'étais même pas prêt. Voilà. Et mais alors, c'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que est-ce que je pense que Francis Ngannou n'est pas un bon gars? Oui, je le pense. Mais ça n'engage que moi. Bon gars n'est pas un bon gars, pas dans l'absolu. Francis a toujours été bon avec toi, il t'a jamais rien fait de réprochable à toi, quoi. Toi personnellement.
Oui, non, complètement.
Alors qu'il faut que les gens l'entendent. Alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Michael Jackson de leur vie et ils disent Michael Jackson, c'est pas un bon gars, je ne l'aime pas, il se la pète trop. Et il y a des gens qui n'ont jamais croisé le chemin de Tony Yoka. La moitié de la France, ils disent Tony Yoka, moi je ne l'aime pas, c'est pas un bon gars. Ils ont le droit de le dire. Mais laissez-moi le droit de dire que, d'autant plus que moi, je l'ai rencontré dans ma vie. Vous parlez à Hannibal. Un des coachs de Francis que je connais, avec lequel j'ai travaillé, qui a travaillé avec Francis, qui l'a même aidé administrativement, il vous dira, c'est pas un bon gars. Vous parlez avec Tino Martin, qui est un ami d'enfance, et un ami de Francis, un compatriote de Francis, un Camerounais, il vous dira, à lui de poser la question, il vous dira, non, je suis catégorisé, c'est pas un bon gars. Mais ça n'engage que lui, que Hannibal, que moi. Je ne vous dis pas, chers spectateurs, de penser qu'il n'est pas un bon gars. Je vous dis, moi, ce que je ressens, j'ai le droit de le ressentir. J'ai passé 6 ans de ma vie avec lui. J'ai le droit, permettez-moi d'avoir le droit de dire que, à la conclusion de ma petite vie à lui, je conclus que ce n'est pas un bon gars. Donc, moi, je le dis à la somme de plusieurs choses que j'ai dites sur cette interview-là, où je dis, he's not a good guy. Good guy, ça fait un peu bien, c'est gentil. Quand vous avez mis votre punchline et que vous m'avez allumé, vous mettez le coach de Francis dit il n'est pas un bon gars. Bah, vous savez que ça va cliquer. Vous savez que les gens vont devenir fous parce que ça sort du contexte. Boum.
Et... Non, mais en dehors de sortir du contexte, c'est par exemple l'interview qu'on fait aujourd'hui.
Oui.
L'interview qu'on fait aujourd'hui, la partie moi, qui m'intéresse le plus, c'est sur Ahmed Salamov et Slim. Oui. Mais on est d'accord que si on met en titre Fernand Lopez parle d'Ahmed Salamov et Slim, personne, malheureusement, va cliquer sur l'interview et la voir. Alors que, par contre, si on dit Fernand Lopez parle de Cyril Gane sur la Fight Island et raconte ce qui s'est passé, les projets pour Bon Gamin, là, les gens vont cliquer et vont ensuite pouvoir les découvrir.
On est d'accord, mais voilà. C'est ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que nos followers derrière, ouais. Vos followers derrière, n'ont pas cette notice de lecture de capter que
ah oui.
quand il y a un titre, n'est pas représentatif de tout le contexte du truc.
Oui, oui.
Alors que moi, c'est-à-dire que moi, j'arrive à cette conclusion. Pour pouvoir ne pas trop parler de Francis, sur le MMA Bash, ce podcast-là, j'ai donné un défi à tout le monde qui écoute. Vous là qui écoutez. Je vous dis ceci. Fouillez sur Internet. Trouvez une interview où Francis Ngannou dit merci. Écoutez bien ce que je viens de dire. Vous avez l'occasion de gagner 10 000 dollars. Je donne à celui qui trouve une interview de Francis Ngannou. Francis Ngannou dit merci MMA Factory. Merci Management Factory qui m'a mis à l'UFC. Merci Fernand Lopez, mon entraîneur. Vous trouvez une interview où il dit merci, vous avez cash 10 000 dollars. Il y a des témoins, il n'y a pas cash 10 000 dollars. Je vous fais un virement direct de 10 000 dollars sans discuter. Vous êtes loin, virement. Vous êtes proche, je tire cash 10 000 dollars. Trouvez-moi une interview de Francis Ngannou qui dit merci mon management, merci à mon équipe ou merci à mon coach Fernand Lopez. Ça n'existe pas. Moi, j'étais au MMA Award. J'étais là, aux États-Unis, pour l'accompagner pour un combat. MMA Award, il me propose, « Freeboy, on fait quoi ce soir? Tu vois, on a eu MMA Award, on y va ensemble. » On est assis ensemble, il y a des journaux, des journalistes, il y avait John Morgan à côté de moi, MMA Junkie. Francis s'élève, l'UFC vient me dire à l'oreille, attention, bientôt, ça va être Francis. Donc, ils font leur petit cinéma parce que du coup, comme on va faire un spot sur nous, les personnes qui sont assises à côté, on les dégage. On met des personnes un peu plus connues à côté de nous et on arrange l'endroit où on est assis. Donc, spot sur nous. Et le nominé pour le KO de l'année, Francis Ngannou, boum, spot sur nous. Il s'élève, il va faire son discours. Allez regarder la vidéo. Tout le monde qui est passé sur le stage a dit merci à son coach, sa team, son chien, sa femme, sa souris. Tout le monde a dit merci à quelque chose. Francis a remercié ses fans. J'étais assis là. C'est un MMA Awards qui est volé au MMA Factory. C'est une équipe qui a fait ça. Christian Pumbu. Il s'est pris des grosses blessures pour pouvoir l'aider à faire cet entraînement. Je me suis pris des gros blessures. Combien de fois vous avez déjà vu des mecs qui mettent qui voient des gros coups de latte que je me prends de Francis et qui disent « J'espère que ce côté est bien payé. » Vous avez déjà vu ça combien de fois? C'est le minimum, même quand tu n'aimes pas cette personne, de dire à cette personne « Je remercie mon coach avec lequel je suis assis là. » Parce que s'il est loin, le coach, tu vas te dire « J'ai oublié. » Mais non, j'étais à Vegas. J'étais assis à côté de lui. Il est monté. Il a dit « Merci, je vais continuer à vous offrir des KO comme ça. » Pas un dropping name sur le MMA Factory. Pas un dropping name sur quelqu'un. Enfin, sur quelqu'un. Si tu ne même pas dis Hannibal, qui m'a enseigné, machin. Dis quelque chose sur quelqu'un, bordel. Donc, je suis désolé. Je comprends le côté. Mais pourquoi il va venir dire ça là? La première des choses, c'est que je ne vais pas là-bas à MMA Bash pour aller parler de Francis. Vous avez pu le remarquer, je ne suis pas vocal dessus. Je ne parle pas de Francis en général. J'esquive de parler de lui. Mais effectivement, malheureusement, les gens ont cette connexion. Quand ils parlent à Francis, ils lui parlent de son coach en parlant de moi. Et pourtant, moi, j'allais là-bas comme spectateur. Il avait déjà un autre coach. Mais on leur parle. C'est de moi qu'on parlait à chaque fois. Et moi, je reçois encore plein de messages. On a une connexion qui a été longue. Moi, j'ai des gens qui vont tout le temps me parler de Francis et je vais esquiver comme je peux. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai dit une autre indication à des gens, ceux qui ne savent pas et qui ont du mal à comprendre l'anglais. Tapez sur Google Francis Ngannou interview Cameroun. Vous aurez une tonne d'interviews que Francis Ngannou fait au Cameroun, pays dont je suis originaire, pays dont il est originaire. Écoutez les interviews. Vous aurez l'impression que Francis est passé de homeless, de sans domicile fixe, à l'UFC. Parce qu'il y a une partie de sa vie qui décide de bloquer, de cacher, parce qu'il n'aime pas donner la lumière. Il n'aime pas que la lumière qui vient sur lui, et puis ça le gêne en fait, ça. Et donc, ce que je dis, c'est, vous allez penser que c'est peut-être après quelque chose, où il y a eu quelque chose. Mais non, depuis le début, c'est pour ça que je vous mets au défi de trouver un moment de dropping name, comme tout le monde fait. Quand vous parlez à Daniel Cormier, il vous dit quoi? Et qui est le meilleur team du monde et tout, on a des sparring de malades, machin, vous parlez à Georges Saint-Pierre, il vous dit quoi? Il vous dit ça, c'est, ben voilà quoi, mon coach et tout, c'est machin, truc et tout. Quand vous parlez, regardez, vous avez écouté Adesanya parler? Mm-hmm. Il vient de l'Afrique, c'est un Nigérien. Adesanya parlait de sa team. On lui demande comment tu fais pour devenir un mec qui va établir ton nom dans l'histoire. Comment tu fais pour avoir un legacy? Il dit quoi? J'ai juste à écouter mes coachs. Parce que c'est grâce à eux que je suis arrivé à ce niveau. Parce que c'est grâce à eux que je suis là. Parce que voilà, ok, t'es pas d'accord, ça arrive, tu ne t'entends plus avec le coach. Prenons le pire des cas. Fernand Lopez, c'est pas un bon personnage. C'est quelque chose de, quelqu'un de pas bien. Oui, mais il n'y a aucun doute que pour toi, il a été bien. Pour toi, personnellement, tu as combattu au 100% fight. Tu as affronté un mec qui s'appelle Zoumane Assissi. Zoumane Assissi avait déjà 7-0. Toi, tu avais 1-0. Tu as perdu contre Zoumane Assissi. Fernand Lopez a tellement cru à toi qu'il n'a pas arrêté de pousser pour que tu rentres à l'UFC. Tu rentres à l'UFC, ne serait-ce que ça. Tu te dis, je ne suis pas plus brillant que Zoumane Assissi, qui était déjà 7-0 poids lourd et qui a 10 ans de moins que moi. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a donné un métier pour la vie. Même sans l'aimer, tu pouvais dire une fois de ta vie, merci à MMA Factory, merci à ma salle de sport. Donc, excusez-moi de pouvoir être émotif dessus et de dire, les gars, je ne vous dis pas qu'il n'est pas bon avec vous. Ce mec-là est très bon, notamment avec les enfants. Moi, je l'ai vu jouer avec ma fille. C'est très sincère. Francis adore les enfants. Je n'ai jamais vu ça. C'est que je ne comprends pas qu'il n'ait pas 12 gosses. Il kiffe profondément les enfants. Je l'ai vu jouer avec son coach de sa nouvelle team aux États-Unis. J'y étais. Mais ils sont, enfin, ma fille, Raph, quand elle voit Francis, voilà, elle kiffe. Donc, je ne dis pas qu'il est de manière absolue pas une bonne personne. Je vous dis que dans les rapports entraîneur-entraîné, entraîneur-manager, il n'est pas bon. Ça n'engage que moi. S'il y a d'autres personnes qui le trouvent bon, je respecte complètement. Je ne vous en veux pas du tout de le trouver bon. Je veux qu'il continue à gagner sa vie. Je veux qu'il soit bien. Je ne lui souhaite pas du tout de mal. Mais les gars, laissez-moi la liberté. Vous avez le droit de dire que Zidane n'est pas bon. Il a mis un coup de tête à Materazzi. Ou qu'il est. Mais permettez-moi de dire qu'un mec n'est pas bon. S'il n'est pas bon, autour de moi et envers moi.
Non, mais je pense que c'est le truc, à mon avis, ce qui surprend surtout les gens, c'est l'image qu'il y a autour de quelqu'un, entre guillemets, tu vois, de bon avec la fondation, toutes ces choses-là, et que derrière, enfin, tu sais, tu vois qu'il y a les réseaux sociaux, ces interviews, tout ça, et que... Non, mais c'est vrai,
mais les gens... calmez-vous, avec les fondations ah, oui. Non-profit, c'est la base. Moi, j'ai 3 fondations non-profit aux États-Unis. Je ne vis même pas aux États-Unis. J'ai créé 3 sociétés, fondations non-profit, c'est la base. N'importe qui crée une société, LLC, fondation non-profit, tu te mets, tu es à l'abri. Si tu as des... Ça ne veut rien dire ça. Dans l'absolu, ce n'est pas ça.
Oui, non, mais tu sais, au niveau du marketing...
Moi, je te dis ce que les gens vivent tout le...
Oui.
Des anecdotes, je peux en donner 10 millions. Je me mets à me poser dessus, on n'est pas sorti de l'auberge.
Ah oui, non, mais...
Haroun, qui est le mec le plus célèbre à la salle, Haroun,
qui est l'homme à tout faire.
Qui est l'homme à tout faire à la salle, qui est un peu l'intendant du MMA Factory. Bah, Haroun, c'était un sans-abri aussi, que j'ai récupéré au MMA Factory, qui est avec nous, qui fait une famille maintenant. Quand Francis est arrivé à la salle, je lui ai offert du matériel. Dès qu'il est arrivé, il a été pris dans la fiche 0. Donc, ça veut dire que la personne est inscrite à la salle et elle ne donne pas 1 € sur toute la saison. Il a fait ça pendant 3 ans. Pas 1 € donné. Jamais 1 € donné. C'est moi qui lui donnais de l'argent. OK? Haroun est aussi un SDF. Donc, j'ai donné du matériel à Francis. Je me rappelle, c'était des gants. J'espère que je vais... Booster. des gants Booster noirs avec une virgule. Je ne suis pas lié à Booster. Mon sponsor, c'est Elion. Donc, il ne faut pas que mon sponsor s'énerve. Elion, c'est les baisses. OK? Mais cependant, ces gants-là, j'aime être précis. Ils traînent à la cave au MMA Factory. Haroun retrouve le gant marqué dessus Francis Ngannou. Francis avait marqué son nom dessus. Haroun poste ça sur Internet. Francis lui somme de garder ce gant parce qu'il va venir le récupérer parce qu'un juif va le mettre aux enchères. Oui. Elle dit, mais les gars, excusez-moi, c'est-à-dire que je comprends votre point de vue. Vous avez face à... Et je vous comprends, je ne vous en veux pas du tout. Vous avez face à vous quelqu'un de très posé, très gentil. Qui est gentil? Je vous dis encore que je suis sûr que ce mec-là s'occupe très bien de sa famille, de sa maman, de machin. Il est gentil. Il y a des personnes qui kiffent. Il a un ami. Comment il s'appelle? Il a un ami qui cite souvent, qui s'appelle... Il y a un ami, en fait, qui était du Cajun, qui cite souvent, le nom va me revenir. Il est très gentil avec lui. Et voilà. Mais je dis juste que, dans l'absolu, des gens gentils, j'en ai connu. Et des gens gentils sont gentils dans l'absolu. Et je dis que, moi, le premier, je ne suis pas un mec parfait. J'ai eu des expériences avec vous, généralement, qui sont correctes. Et puis, j'ai des expériences qui ne me vont pas avec certaines personnes. Et donc, encore une fois de plus, ces personnes-là vont dépendre de moi, Fernand Lopez, quelqu'un de pas bien, de méchant, de street, ou de même, j'ai même certains qui ont dit, bah, il s'intrinque en calculateur, il aime, voilà. Donc, j'ai des réputations chaque fois sur des trucs. Et ça n'engage que ces personnes-là. Moi, dans mon petit domaine, je comprends que ces personnes-là n'aient vu que cet angle. Heureusement, dans ma vie, j'ai des gens qui m'aiment, quelques petites personnes qui m'aiment. J'ai mes filles qui m'aiment, j'ai ma mère qui m'aime, et ça me suffit largement. On est dans un monde où même Dieu ne fait pas d'unanimité, je n'espère pas faire d'unanimité. Voilà, mais je veux juste avoir la liberté de pouvoir aussi donner une opinion. Moi, je l'ai connu avant vous. C'est moi qui l'ai pris sous mon aile. Et en gros, il y a une image que j'aime souvent, que j'affectionne. C'est l'image du maître des 4 tortues ninja, comment il s'appelle?
Splinter.
Donc, il y a un moment donné, il tient les tortues ninja qui sont toutes petites par la main et il marche. Et puis, plus tard, quand il est vieux, les tortues ninja le tiennent par la main et l'amènent avec lui. Moi, c'est ce que je vois, en fait, dans l'accompagnement d'un élève. Un coach est un pont par lequel doit passer son élève pour grandir. Mais quand l'élève est passé du pont, ce serait bien qu'il lui donne la main et qu'il le tire avec lui vers le haut. C'est une image que j'ai de la vie. Et quand il n'y a pas ça, j'ai le droit de dire que j'ai été déçu ou trahi. C'est un ressenti. Vous ne pouvez pas me dire que j'ai tort. C'est moi qui ressens. Peut-être de manière générale, dans l'histoire ou pas l'histoire, j'ai tort. Mais au fond de moi, mon ressenti, je voulais juste que vous le respectiez. Comme je respecte que vous disiez, j'aime Batman, je déteste Superman. Sa tenue, elle est trop juste à poser, juste au corps. Moi, je n'aime pas. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais ce que je veux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin, c'est la fin de... C'est mon dernier mot dessus. Est-ce que ça...
Ah oui, complètement. C'est le dernier mot. Mais moi, j'avais une ultime question à ce sujet. Mmh. C'est finalement, aujourd'hui, tu es businessman accompli, head coach reconnu. Et c'est vrai que tu es très... quand je parle de toi, à chaque fois, les gens disent, Fernand Lopez, ce qui est bien, c'est qu'il est très direct, en fait. Enfin, tu sais, voilà, c'est let's go, c'est on propose des idées, tu donnes ton goût ou pas. Mais avec Francis, on a l'impression que tu as été extrêmement patient. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu prends des décisions extrêmement vite et si ça ne te plaît pas, tu sais, tu passes à autre chose, quoi.
Mais parce qu'avec le temps, tu t'es dit, au début, tu critiques pas mal de choses. Tu ne te rends pas compte quand tu n'es pas dans le feu de l'action. Moi, avant, je disais, putain, Joe Silva, c'est une pourriture, quoi. Moi, j'étais un nouveau manager, un jeune manager. J'écrivais à Joe Silva, qui était l'ancien manager de l'UFC. Et je me dis, il est dur, lui. Et des fois, il me croisait dans l'ascenseur de l'UFC, il me faisait un sourire et tout, il me disait, how you doing, coach? Et des fois, il me croisait, il m'ignorait. Speed à mort. Et puis, il a pris sa retraite, machin. Mais c'est des gens qui vont vite. Et moi, je me disais, pourquoi ils vont aussi vite? Parce que moi, j'écris à Sean Shelby aujourd'hui à Amik Ménard, et j'ai l'impression que chaque voyelle coûte cher, quoi. Il me met un mot, je lui dis, je lui envoie un bête de message, je lui écris un mec que je veux vendre, je fais un beau truc et c'est un bon plan pour lui, je lui dis, regarde, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il me dit,
ok,
got it. Okay. Mais got it, c'est le jackpot, hein. Attention, quand Sean dit got it, ça veut dire que tu as tué Loki, parce que sinon il te calcule même et il ne répond pas. Mais parce que il est face à une contrainte décisionnelle où ça doit aller très vite, des dossiers comme ça, il doit traiter 10 000. J'ai 10 000 dossiers à traiter. Déjà, à l'époque, je n'avais pas tant de dossiers à traiter. Et puis, j'étais dans l'idée de me dire, je vais l'éduquer. Dans le cas de Francis, je pensais que je vais lui montrer par l'exemple. Je vais lui montrer que matériellement, il faut aller par l'exemple. Il faut donner... Je me rappelle ce match dont je vous parle. Bahreïn, à l'époque. Je vais au Bahreïn avec Francis. Périple de malade. On revient, Francis a gagné. Je peux me tromper, je ne suis pas sûr, mais c'est quoi? C'était 7 500 $. Au moment où il combat au Bahreïn, il s'est écoulé quasiment 2 ans, je ne sais plus en termes de temporalité. Donc, il a déjà beaucoup combattu. Il a combattu en Suisse, il a combattu à Montpellier en kickboxing, il a combattu au 100% fight. Bon, c'était peanuts. Mais il a pu avoir des 1000 et des 100 à gauche, à droite. La règle est simple. Tu combats, tu donnes tes 10% au coach, au manager. Durant toute cette période, Francis ne me donne pas un seul sou. Bon, tu te dis, le mec, il est en situation de ce que j'appelle fiche zéro à la salle. Donc, il s'inscrit pour rien. Les fiches zéro, j'en ai 41 exactement à date. Mm-hmm. Ma secrétaire m'a donné le relevé. 41 fiches zéro. Des mecs qui arrivent au MMA Factory gratuitement, ils ont tout gratuitement. Parce que je considère qu'ils sont dans une précarité et c'est ma manière de rendre au monde, à la terre, ce qu'elle m'a donné. J'ai été chanceux. J'étais parmi ceux-là. Attention, les belles histoires de j'ai traversé le désert, machin, nani. Je peux rencontrer 15. Je peux vous raconter ça aussi. Hein. C'est que attention, c'est que c'est pas comme si je suis né avec une cuillère d'or dans la bouche et puis c'est resté comme ça. Toute ma vie, j'ai vécu des moments où c'est dur. Dans la misère, je l'ai connu. Mais ça, c'est pas la misère. La vraie misère, c'est il n'y a pas plus grande misère que la misère intellectuelle, j'aime dire. C'est là le problème. C'est que je rentre du Bahreïn. Francis est assis sur moi, sur mon canapé. Nous sommes des frères. Donc, on est rentré, je l'ai déposé chez lui, il est parti, moi je suis parti. Il est assis sur le canapé et ensuite il vient me rendre visite, on est chez moi. Et je lui dis, Freeboy, on s'appelle Freeboy, mais c'est quand que tu commences à me payer? Comment ça se passe? Tu vois, tout le monde à la salle paye sa cotisation, tout le monde donne un pourcentage, là tu viens de prendre un pied. Et il me dit, comment ça t'est payé? Je lui dis, me payer. Et il me dit, moi je pensais que c'est toi qui me donnes des sous. Souvent, tu vois, moi je ne savais pas que maintenant, c'est toi qui m'as toujours donné des sous. Bon, c'est dur. Mmh. Ok, le mec n'était pas informé. Il dit, je ne suis pas informé, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vois. Mais en gros, je lui ai dit, mais non, est-ce que tu t'es déjà posé la question comment je vis? Je suis ton entraîneur. Est-ce que tu sais comment je vis? Ben, je ne sais pas, il y a la salle, tu as des cotisations, tu as des machins. Je lui dis, le loyer de la salle, il coûte 6 500 par mois. Est-ce que tu penses qu'il y a des sous pour que je reprenne à la salle et que je vive? Comment je vis si tu ne me donnes pas un pourcentage? Quel est ton... Elle me dit, je ne savais pas. Début de la guerre.
Ah oui, aussitôt. Ah, d'accord. Okay.
Début de la guerre.
D'accord.
Fernand veut l'argent, alors qu'avant, il faisait comme s'il est gentil. Il avait fait toute la gentillesse, il voulait l'argent. Début de la guerre. Sauf que mon métier à la base, c'est ça. C'est de dire, j'étais électrotechnicien, je décide de faire un autre métier qui est de gagner ma vie en vendant ma connaissance sur l'OMMA. J'ai passé une bonne demi-douzaine à étudier. Donc, j'ai changé complètement la trajectoire de ma vie. Électrotechnique, je change tout, je recommence tout. Je vais faire du sport. J'apprends à faire le sport. Je passe mon temps sur les bancs pour apprendre. J'essaie d'avoir de la connaissance. Quand j'arrive avec la connaissance et que je te la donne, j'attends que tu me permettes de vivre. C'est du bon sens. Le bon sens, c'est de dire quand je prends l'argent tous les mois, comment il vit mon coach. Et quand tu as un gars avec lequel tu as fait ce périple d'aller dans les... Je vais vous parler dans les détails. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous pouvez pas, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes même pas prêt pour les détails. Je pourrais vous en dire jusqu'à demain. Donc, c'est ça qui m'amène aujourd'hui à avoir des process très rapides. De me dire, quand j'affronte un mec qui vient me voir, bonjour, je suis Hassan Dam, je veux changer de carrière, je vais passer sur le MMA, nanana. Je vais très rapidement. Hassan, voilà ce qui va se passer. Ton rôle, c'est ça, mon rôle, c'est ça. Tu es un très bon boxeur, voilà ce que tu peux faire. Je peux t'amener là, je peux t'entraîner là. Quand tu t'entraînes, tu payes ça. Quand tu combats, tu payes ça. Ta-ta-ta. Binaire, binaire, oui, non. Oui, ok, ciao, bien, on est bien ensemble, poteau, et là, on commence à être frère, ami, ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que je suis un mec sans cœur et sans... C'est juste que j'ai compris que, déjà, le temps, c'est l'argent, il faut aller vite. Et j'ai compris que, sur les process de tous les échecs que j'ai faits, d'ailleurs, c'est le but. Je penche dessus pour, justement, dire, ceux qui ne le savent pas encore, c'est ça le contenu de la formation FMC. Mon but, c'est d'aller faire une formation où je vais vous amener... les réponses à toutes les erreurs que moi j'ai faites et vous n'allez jamais les faire. L'idée, c'est que je prenne un raccourci de 10 ans. Je vous dis en 10 ans rapidement ce que vous pouvez faire pour ne pas avoir des erreurs. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ces matchmakers, ces hommes d'affaires vont super vite. Super, super vite. Ça va très vite. Voilà. Et donc, du coup, moi, c'est comme ça que je fais. J'essaie d'aller vite. J'essaie d'aller de manière binaire, mais pas méchant. On a déjà eu pas mal d'interactions, de travail ensemble, de possibilités de travail. Et vous avez vu que je suis très binaire. Mm-hmm. C'est voilà quoi. Ça peut être brutal parce que je vais vite, mais c'est binaire et c'est correct. Je suis juste. Je vais vite, juste. Et des fois, le processus peut paraître vite pour les gens. Mais voilà, au moins, c'est cadré. L'athlète qui vient vers moi, il sait quoi. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de discussion d'argent avec Taylor Lapelus, avec Cyril Gane, avec ça va vite. Ça va vite. C'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Boum, le truc est parti, tu sais à qui tu vas voir ça. Mais non. Mais Francis, il m'a quelque part éduqué. Avec Durand, ok. Dès le moment où je lui ai signifié que tu étais celui-là. Au moment où tu es arrivé, quand tu as mis tes pieds au MMA Factory, tu étais avec deux rugbymen. Deux Africains rugbymen. Ils ont passé le moment de précarité où je leur ai prêté des fringues, où je leur ai donné des trucs. Ensuite, ils sont partis, ils ont laissé tomber le MMA. Ils sont partis, ils sont sortis de la précarité. Toi, tu es dans la précarité et tu continues à recevoir de moi pendant 3 ans consécutifs. Au bout d'un moment, ce serait bien de renvoyer l'ascenseur. À partir de ce moment, la guerre se met en place. C'est-à-dire que concrètement, il a eu la signification et la notification que j'attends de lui. Et donc, à la fin d'année, le président du MMA Factory, à l'époque, Kamel Khalfi, vient me dire, il y a un seul qui n'a pas payé, c'est Francis. Donc, je vais voir... Non, Francis lui a dit de manière très insolente, je ne parle pas avec toi, va voir avec Lopez. Kamel Khalfi est témoin, vous l'appelez, vous lui demandez, il n'est plus présent du MMA Factory, allez chercher l'information. Moi, je suis factuel. Kamel Khalfi va venir me dire, j'ai parlé à Francis, il a dit que lui ne paye pas et tu sais avec moi que tu dois voir ça. Ok, je dis pas de problème et tout, je veux pas qu'ils comprennent qu'il y a un embrouille ou quoi. Moi, je revais voir Francis, j'ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je t'ai dit l'autre jour, la cotisation, c'est combien au MMA Factory? 600 euros. 600 euros. Taylor Lapelus, il est à l'UFC, il paye sa cotisation. Michael Lebou est là à l'UFC. Non simplement cette année-là, Michael avait payé la cotisation, mais son sponsor, Wicked One à l'époque, lui avait donné beaucoup de matériel. Et en gros, au lieu de dire non au matériel, même si c'était au-dessus, il avait pris et il a offert ça au MMA Factory pour des personnes. Mais j'ai dit, Francis, tu fais une organisation non-profit. tu passes des États-Unis, tu t'arrêtes en France, tu prends des sacs et tu fous tous les gants qu'on a ici, tu vas avec, pour donner pour ton organisation non-profit. Une cotisation de 600 euros. Et il dit, bah non, ce serait une honte si les gens savent ça. Maintenant, je vous appelle à témoin ceux qui disent que, voilà, selon son analyse, c'est une honte qu'un grand combattant comme lui paye sa cotisation pour faire vivre la salle. Et donc, on est en conflit parce qu'il dit, oh, moi, j'apporte la lumière dans la salle, tu ne dois pas me faire payer la cotisation. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Pour que la salle vive, on a besoin. C'est 600 putains d'euros. Ça veut dire que, en termes d'argent de poche que j'ai pu lui donner durant son développement, pendant sa précarité, c'est peanuts, quoi. Donc, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de profondeur et malheureusement, ça m'a éduqué. Enfin, heureusement, peut-être, ça m'a fait... Mais ça m'a permis de voir les choses différemment et de me dire que l'être humain, de manière générale, la vision de la loyauté, elle est compliquée. Et qu'il faut, il faut border le truc, carrer le truc. Et ensuite, la personne, elle sait ce qu'elle doit faire. Et puis, éventuellement, voilà. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, mes process, ils vont vite. Mes process sont simples. Parce que j'ai eu une tonne de déception dans la manière de fonctionner des êtres humains qui fait que à force tu sais comment ça doit aller et tu mets les process et si jamais le process ne te va pas, tu passes ta route. Si moi ça ne me va pas, je passe ma route. On est carré, on avance.
Là récemment on a pu voir sur tes réseaux sociaux des posts concernant le Fight Management Collège où tu veux aider en fait tous ceux qui souhaitent se former au métier de coach avec trois différents niveaux. Toi bien évidemment aujourd'hui tout le monde connaît tes succès. Mais quel est justement, là tu parlais de ne pas faire les erreurs que tu as pu faire. Toi si tu devais mettre la plus grosse erreur commise ou impair commis au cours de ta carrière, lequel est-ce que ça a été?
Ça a été sur... Oh là, il y a beaucoup d'erreurs. Oh là 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 là, j'ai essayé de chauffer une erreur, je me suis noyé. Il y a tellement d'erreurs. Déjà sur le statut de la salle de sport. Vous ouvrez une salle de sport en France. Moi, j'étais venu avec des belles idées, j'ai vécu... quelques temps aux États-Unis et donc j'avais des belles idées en me disant je vais mettre le business model en mode de ce que j'ai vu aux États-Unis. Donc du coup j'étais l'une des premières salles privées, si ce n'est la première salle privée de MMA en France. Et donc c'était une société. Et donc l'erreur de ne pas adapter la société au statut français qui privilégie les associations m'a coûté très cher. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc, cette méthode-là, par exemple, c'est quelque chose que ce sont des choses dont j'ai envie de parler sur les formations. Aider les jeunes coachs qui sont sortis de leur cursus de coach, d'athlète ou de machin qui veulent passer, qui veulent faire de ça leur métier, ils veulent faire une salle de sport. Comment avoir le meilleur statut pour qu'ils soient à la fois, ils vous donnent l'indépendance d'avoir une salle privée parce que vous pouvez entraîner vos élèves à tout moment, à 2h du matin, quand vous voulez, c'est votre salle privée. Et avec le fait que vous puissiez personnaliser votre identité aujourd'hui. MMA Factory devient une franchise parce qu'on a une identité qu'on peut répliquer, dupliquer dans plusieurs salles. Ça, c'est la clé. Mais en même temps, comment faire que ce statut-là soit en adéquation avec le cadre institutionnel français? Là, je suis bon. J'ai fait tellement d'erreurs dessus. Je sais comment aller corriger ces erreurs. La pédagogie. J'adore la pédagogie. Je pense que c'est le truc pour lequel j'ai envie de me régaler. Sur le Fight Management Collège, les intervenants sont monstrueux. François Laurent, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un tueur à gages. Agrégation, machin, enfin, c'est un monstre. Je ne vais rien vous dire dessus. Troisième degré, juste au brésilien. Il n'y a rien à dire. Il va apporter sa pierre sur l'édifice. Il va vous montrer, il va vous parler de la méthodologie, de la didactique, comment pouvoir transmettre de la connaissance. Mais moi, ce qui me plaît, en fait, sur ça, c'est que sur la pédagogie, c'est le truc où je sens les choses et je m'éclate. Et je vois... Enfin, j'ai eu, avec le temps, probablement 3000 personnes qui sont passées entraînement en France comme coach. Quand je comptais la fédération de lutte où j'ai été formateur sur l'île de France, quand je comptais la fédération de kickboxing Muay Thai avec 46 000 licenciés à l'époque, quand j'étais responsable de formation dessus, toutes ces connaissances-là et la manière de cumuler toutes les erreurs qu'ont fait tous mes élèves et moi y compris, ouais, vous allez vous régaler. C'est-à-dire que la situation géographique du coach dans la salle. Quand vous arrivez, en plus vous êtes déjà arrivé dans ma salle et vous voyez que j'ai une espèce de plateforme sur laquelle vous voulez souvent monter pour filmer et vous me faites chier parce que c'est ma plateforme à moi. Mais c'est l'auditorium, quoi. Vous ne vous rendez pas compte que c'est une place choisie. Alors que géographiquement parlant, pour avoir ma pédagogie, j'ai une vision panoramique. Je peux voir tous les élèves, je peux les corriger en temps réel. Parce que la pédagogie, ça se corrige en temps réel. Avec en temps réel, je bombarde des noms. Je dis, ah, Slim, tu as fait ça. Attention, Samir, tu es en train de faire ça. Samir, tu es en train de faire ça. Je donne des noms, je donne des trucs, je pose. Je dis, Messi, pose. Je vais dire, tonton, attention. Je vais dire, Islaine, tu n'as pas fait ça. Ça, c'est parce que j'ai l'œil partout et que j'ai une vision panoramique de la situation. Ça, c'est ce que j'ai envie d'apporter aux élèves en disant que, au-delà du fait que légalement, tu es en danger si tu es en train de t'entraîner pendant que tes élèves s'entraînent parce que le code du sport, la loi t'interdit de le faire, alors qu'un élève qui a payé son inscription en adhérent pourrait se retourner contre toi, ester en justice, porter plainte, en gros, contre toi si jamais il y a un lien de causalité entre le fait qu'il se soit blessé et que tu n'aies pas vu comment il s'est blessé. Donc, tu n'as pas anticipé le risque accidentogène. Ça, c'est très important, la loi. Ensuite, au-delà de ça, ce qui est intéressant que j'ai envie d'apporter aux candidats de FMC, c'est de leur dire, les gars, quand vous voulez quadrupler l'impression de la connaissance dans le cerveau de vos élèves, c'est en temps réel. Vous avez déjà vu, j'entraîne, j'y stop. Bougez plus. Je fige la situation. Je vais dessus. Je prends les détails. Je donne les exemples. Je dis si ta main passe là, elle passe là. Je suis en train de non seulement imprimer la connaissance, mais j'habitue mes élèves à la coachabilité. Quand on arrive sur le coaching et que je reparle d'un mot que j'ai employé dans cette situation, ils impriment, ils captent, ils mettent en place. C'est cette différence-là que je vais faire. La diète, la nutrition, on aura Nicolas Hoth, le coaching, master. Monsieur 100%, il n'y a rien à dire, on peut plus le présenter. Smart Fight, allez voir, vous allez voir. Le Management Factory, le managing de manière générale, Benjamin va intervenir dessus, il y aura aussi d'autres intervenants, mais Benjamin va vous donner la quintessence du management qui est très spécifique. Il y a beaucoup de jeunes que nous on reçoit aujourd'hui comme stagiaires chez nous, qui sont en école de management. Ces jeunes-là ont toujours la même remarque à la fin des stages. C'est incroyable la spécificité du management en sport de combat, notamment en MMA. Le wording qu'on emploie, les mots qu'on emploie, la manière d'envoyer les messages, à quelle heure on envoie les messages, comment les envoyer, comment anticiper, comment placer le mec dans une espèce de... On appelle ça la validation subjective. Comment écrire avec une certaine validation subjective pour que le matchmaker qui regarde ton message se retrouve dans l'obligation de... une espèce d'obligation de valider ton truc, ou en tout cas, de te faire une promesse qui va lui l'obliger à finaliser le truc. Mais jamais on va vous parler de tout ça. FMC, les gars, c'est maintenant qu'il faut vous inscrire.
Formidable. Je pense qu'on est complet sur tous les sujets. Merci beaucoup, Fernand, pour cette interview très exhaustive.
Un plaisir, monsieur. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, même si vos punchlines de journaliste m'énervent.
Elle est parfaite. Soit.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.